Gloire à Dieu, nous continuons notre étude sur les psaumes dont nous sommes toujours dans l'étude générale Béréen l'explorateur. Nous lisons la Bible et faisons des petits commentaires afin de nous aider à explorer toute la Bible. Vous savez, il est écrit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, de toute parole. » C'est pourquoi nous voulons lire toute la Bible en écoutant quelques commentaires qui peuvent nous aider à comprendre ces passages et à les mettre en pratique. C'est ça l'objectif de cette étude, sans trop aller en profondeur. Voilà, nous en sommes arrivés au livre de Psaumes. Et on avait expliqué que le livre de Psaumes, c'était un livre de prière et de louange. Mais même si c'est un livre de prière et de louange, c'est quand même la parole de Dieu. Parce que en introduction, le premier psaume nous dit, voilà, heureux celui qui ne se met pas avec les moqueurs, mais qui médite la loi de Dieu, la parole de Dieu. Donc l'introduction nous montre que les psaumes sont présentés par Dieu comme étant sa parole. Effectivement, en dehors de son cadre rituel, de son côté rituel, pour servir à accompagner les louanges et les prières au temple, nous voyons beaucoup de sagesse dans les psaumes. Voilà, c'est pourquoi ça a été regroupé aussi dans les livres de poésie, de poétique et de sagesse. Voilà, on voit beaucoup de sagesse. On voit certaines explications à des principes bibliques. On voit aussi des prophéties concernant l'avenir. Et on voit aussi des mystères dénoué, comme quand on parle du Fils de Dieu, c'est un mystère pour les Juifs. Mais quand on lit les psaumes, on peut recevoir l'éclairage sur cette notion de Fils de Dieu. Et d'ailleurs, on a vu ça dans le psaume, dans le deuxième psaume, qui était clairement dédié au Fils, le fameux verset 7. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc on voit bien que Dieu parle d'un fils spécial qu'il a engendré aujourd'hui. Et l'aujourd'hui de Dieu, c'est toute l'éternité puisque Dieu n'a pas de temps. Et donc finalement, le livre de Psaumes, c'est la parole de Dieu. C'est total. Donc même si dans un cadre rituel, c'est consacré aux prières et aux louanges, mais au fond, toute la parole de Dieu est dedans. Donc, comme on va voir, il y a des psaumes centraux comme le psaume 2. On va voir aussi des psaumes comme le psaume 16, le psaume 45, le psaume 110. Donc, on va voir des psaumes comme ça, clés, très importants pour la vie chrétienne. Ok, nous en sommes arrivés au psaume 3. Donc, du psaume 3 au psaume 6, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On parle du secours de Dieu, de la protection de Dieu, de la délivrance du Seigneur et de sa miséricorde. Donc, on va les prendre. Et là, ça ressemble donc aux psaumes habituels qui sont des prières, qui sont des appels au secours, des prières et des louanges. Donc nous allons lire le psaume 3.
Psaume 3, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple.
Amen, amen. Voilà un psaume habituel. Voilà, les psaumes habituellement sont comme le psaume 3. Voilà. Donc après, comme nous avions dit, il y a des exceptions. Il y a des psaumes messianiques qui sont des prophéties. Il y a des psaumes comme le psaume 67 qui est un psaume qui explique la mission de salut du monde confiée aux Juifs en quelque sorte. Donc il y a des psaumes voilà, spéciaux, mais en général, les psaumes ressemblent au psaume 3. Donc un temps où un texte qui appelle à l'invocation de Dieu. Donc on appelle Dieu au secours. Voilà, donc c'est le secours de Dieu qui est réclamé dans les psaumes. On prie Dieu, on invoque Dieu. On commence par parler de Dieu. Éternel, voilà. Oh, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Donc on commence par parler à Dieu, par rappeler que nous sommes de Dieu. Et ensuite, on présente les problèmes. On crie, on dit, mais je souffre. Il y a ceci, il y a cela. Et après, on rappelle la fidélité de Dieu. On rappelle l'alliance qu'on a avec lui. Et on finit par proclamer la victoire. C'est le schéma habituel des psaumes tels qu'on pourrait s'attendre dans un cadre rituel de prière. Donc, on se réclame de Dieu, on invoque Dieu, on parle de Dieu, on appelle Dieu et on présente ses soucis, on présente ses problèmes. Et finalement, ensuite on rappelle l'alliance qu'on a avec lui, le lien qui nous unit, on en appelle à sa fidélité, à honorer cela. Et souvent à la fin, le psalmiste se ressaisit, proclame la louange de Dieu, proclame sa gloire, proclame sa fidélité. Donc on voit à peu près ce que je viens d'expliquer se retrouver dans le psaume. Donc il invoque Dieu, dit « Ô Éternel ». Ensuite il présente la situation. « Que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi ? Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu ?» Voilà. Et bien aimé, les psaumes aussi ont un côté humain qui est important pour nous. Vous savez, quand quelqu'un lit les psaumes, il se retrouve souvent. Et je pense que les gens qui connaissent le catholicisme ou le christianisme traditionnel, ils se rappellent que les gens faisaient souvent leur prière en lisant un psaume. Hein. Il y a des gens, autrefois on disait à quelqu'un, bon, par rapport à tes problèmes, la nuit tu lis 10 fois tel psaume. Donc, puisque les psaumes ont depuis longtemps été utilisés comme des prières, mais parfois magiques malheureusement. Or, nous devons être sincères dans nos prières, on doit être naturel dans nos prières, on doit vraiment parler à Dieu. Ce n'est pas la répétition des psaumes qui va nous sauver, c'est vraiment quand on pense à chaque mot qu'on prononce. Mais voilà, quand on lit le psaume, on se retrouve, l'être humain se retrouve souvent, c'est pourquoi ça a beaucoup été utilisé. Et on l'avait dit à la séance précédente que même quand les gens font une copie du Nouveau Testament à distribuer, ils ont tendance à rajouter aussi les psaumes. Donc ils mettent le Nouveau Testament et les psaumes. Les psaumes, c'est capital, quoi. C'est vraiment la vie de l'homme. C'est ce que nous retrouvons chaque jour. Il y a ce côté-là pratique qui est important. Ce que dit David, bien, le chrétien va le vivre régulièrement. Et en général, quand le chrétien ne vit pas trop ça pendant longtemps, c'est à se demander, est-ce qu'il vit vraiment en chrétien ? Voilà. Parce qu'en général, quand un chrétien, il est à 100% dans l'affaire avec Jésus, il est à fond avec Jésus, il prie, il évangélise, il fait ce qu'il fait, comment dire, il gère sa vie à 100% avec le Seigneur, En général, il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup d'obstacles. Et c'est permis aussi par le Seigneur pour davantage augmenter la gloire dans la vie du chrétien. Donc le nombre de difficultés, le nombre de problèmes fait que Dieu aussi va augmenter davantage sa gloire dans ce chrétien-là qui persévère ainsi. Donc, et David le dit, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Et souvent, les ennemis, les gens de mauvaise foi, vont même nous accuser qu'il n'y a plus rien entre nous et Dieu. On se souvient quand Sanchérib a voulu attaquer, hein, dans Ésaïe 36, quand il attaquait les enfants d'Israël, il disait d'ailleurs, même votre Dieu vous a abandonné. Voilà. Donc souvent, on va même nous dire que même Dieu n'est pas avec nous. Voilà. Même notre lien avec le Seigneur ne subsiste plus. Voilà. Ils sont nombreux et c'est une réalité. Et voilà. Donc ça arrive quand nous voulons vraiment servir le Seigneur sérieusement. C'est écrit aussi dans 2 Timothée 3:12. Tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ pieusement seront persécutés. Et quand on est persécuté, c'est souvent, ça vient de toutes parts. Ce sont des réalités à savoir pour ne pas être surpris et se décourager. Donc on dit plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais nous revenons à la troisième partie. Quel est le lien entre nous et Dieu? Voilà. Première partie, c'est en appeler à Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Deuxième partie, voilà mes problèmes. Troisième partie, quel est le lien? Qu'est-ce qui peut justifier que Dieu intervienne? Verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Voilà le lien. Voilà qu'est-ce que tu es dans ma vie. C'est toi mon bouclier. Donc on rappelle ça à Dieu. Souvenons-nous, Apocalypse 12, 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Nous témoignons ce que Dieu est pour nous, on le dit. Vous savez, tout ça est nécessaire parce qu'on est des humains et on oublie parfois ce qu'on était hier. Dès qu'on a beaucoup d'argent, dès qu'on a une certaine force, une certaine autorité, notoriété, on oublie notre état de faiblesse d'avant et la prière diminue. On ne demande plus à Dieu sa nourriture puisqu'on a beaucoup trop d'argent pour en acheter. On ne demande plus à Dieu de nous aider à acheter notre prochaine voiture puisqu'on a 1000 fois la somme d'une voiture. Et c'est comme ça qu'on éloigne Dieu de notre vie. Et quand viennent les problèmes, on s'humilie. On revient dans les psaumes. « Oh Dieu, je t'appelle. » Et ensuite, on expose les soucis. Et après, on dit le lien qui nous unit avec lui, qui justifie qu'on crie à lui. Il est notre bouclier. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. C'est là qu'on se rappelle qu'en réalité, nous ne sommes pas forts. Notre gloire, c'est le Seigneur lui-même. Ça peut même nous amener à voir positivement les souffrances. Hein. Parce que quand on se rend compte que ça nous ramène à Dieu, qu'est-ce qui est mieux que revenir à Dieu? Il n'y a rien. Être avec Dieu, c'est ça qui est le plus agréable, le plus important. Revenir à Dieu, être avec Dieu. La vie de tous les jours, nos réussites peuvent nous éloigner de Dieu parce qu'on se croit maintenant fort. Mais les problèmes nous ramènent au psaume. En réalité, je suis perdu, mes ennemis sont trop nombreux. Je me croyais fort, mais voilà faible. Oh Seigneur, en réalité, c'est toi qui es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. Voilà, on rappelle à Dieu sa position dans notre vie. C'est important, parce que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui s'impose, qui viole, c'est quelqu'un qui veut qu'on l'appelle. il ne veut pas intervenir sans notre permission. Il veut qu'on l'appelle. Et on l'appelle comment? En disant le lien qui nous unit, mais et en disant aussi sa position dans nos vies. C'est toi qui es ma gloire. On le dit, Seigneur. Ce n'est pas moi qui suis fort. Regarde mon état d'aujourd'hui. Ce n'est pas bon. Viens me sauver. C'est toi qui es ma gloire. Tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Voilà. Maintenant, nous arrivons vers la fin. C'est-à-dire que maintenant, la louange commence à monter. Donc, la personne, après avoir crié à Dieu, fait rappeler le lien qui l'unit à Dieu, rappeler la position de Dieu dans sa vie, l'énergie du Saint-Esprit commence à monter et il commence à voir les choses autrement. Voilà. Je me couche, de ma voix, je crie et il me répond de sa montagne sainte. Donc la réponse du Seigneur, quand ça vient, maintenant, allez, c'est la louange qui prend place. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Maintenant, on commence à féliciter Dieu, on commence à louer Dieu, on commence à voir les choses autrement. C'est étonnant parce que rien ne s'est passé peut-être physiquement. On n'est pas passé de la forêt à un palais royal, ni du désert à une oasis, mais la puissance du Saint-Esprit nous fait voir les choses maintenant autrement. Ah oui, mais pourquoi j'ai à m'inquiéter? Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. L'énergie revient. La force revient. Et c'est ça l'importance de la prière, bien-aimés. C'est ça l'importance de la prière. C'est ça aussi l'importance de nos réunions. Hein. Parce que, voilà, même si on est d'accord qu'on doit venir dans nos réunions, nous-mêmes, étant de bons chrétiens, préparés, et ayant prié, ayant vécu une vraie vie chrétienne toute la journée, c'est vrai. Mais on est des humains, on peut connaître des temps difficiles. Et quand on vient dans une réunion comme ça, on entend la parole, on loue Dieu, on prie. Et dans la prière, eh bien, la vision change. On commence à voir les choses autrement. Et on en sort fortifié. Et voilà, c'est y persévérer dans la communion fraternelle, y persévérer dans les prières, y persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est très important. Et David, il commence à voir les choses autrement. J'ai dit David, puisque le premier psaume, hein, en grande quantité, c'est David qui les a fait. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Finalement, le grand nombre qu'il inquiétait au début du psaume, ça ne l'inquiète plus, ça ne le dérange plus. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Vous voyez, la transformation, le parcours dans la prière. Ça, vraiment, c'est un appel à prier, toujours. Et au début de la prière, on n'est pas bien. On voit toutes les difficultés, toutes les souffrances. Mais on vient quand même en prière parce qu'on sait que bon, j'ai quand même un Dieu, quoi. J'ai un Père. Ça, c'est un. Deux, les difficultés sont là, on en parle. Et trois, on se rappelle les liens qu'on a avec Dieu. On expose ça, on invoque cela. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui fait un accident ou qui casse les choses de quelqu'un d'autre, comme ça m'était arrivé une fois. Un de mes enfants, avec son vélo, avait rayé une voiture et l'honnêteté imposait que je laisse un mot, mon numéro de téléphone et mon adresse. Mais avec la souffrance de comment je vais payer, c'est ça quoi. Et j'ai laissé. Mais c'est quelqu'un qui vient me dire, mais oui, mais ça fait partie de l'assurance habitation. Moi, j'ai dit, ah bon? Et quand on regarde les textes du contrat, mais effectivement, ça faisait partie de l'assurance. L'assurance a pris ça en charge. Du coup, le langage change. Donc, avant même que l'assurance prenne en charge, du moment que l'assurance dit « Mais oui, c'est vrai que vous êtes assuré pour cela », cette phrase-là change déjà la logique. Tu vois les choses différemment. Voilà. C'est ce qu'on vient de lire, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que quand tu commences à prier au début, tu présentes ton problème, tu es en souci. Mais après, tu regardes bien, mais j'ai un contrat avec Dieu. Je suis en alliance avec lui. Il est mon bouclier. C'est lui ma réponse. Tout vient de lui. Jésus a payé par son sang. Ah, quand on revoit tout ça, on se dit, oh, mais Dieu, donc viens, puisqu'il y a tout ce contrat avec moi. Et finalement, lui, il répond. Le Seigneur sait que, c'est que Paul dit dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des actions de grâce, des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs en Christ. Donc, quelle est la réponse de Dieu? Une paix, une joie, une assurance que tout est réglé et le langage change. On aboutit à la louange et à une prière d'autorité. Quoi. Là, maintenant, c'est « Je ne crains pas les myriades. Lève-toi, Éternel, sauve-moi. » Mais là, maintenant, l'énergie est revenue. Ce n'est plus les lamentations, c'est des prières d'autorité. Voilà, bien-aimé, quoi qu'il nous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. C'est tout. La procédure nous est donnée, le processus est là. Et contextuellement, le psaume 3, il nous est dit dans la Bible, psaume au verset 1er, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Vous connaissez le contexte, non? Donc, Absalom, le fils de David, a fait un coup d'État contre son père. Il a pris le pouvoir et David était en fuite avec environ 1000 personnes, 1000 combattants. Il était en fuite et le peuple le suivait et également. Une partie du peuple, une partie minoritaire du peuple suivait David aussi en même temps. Et dans cette fuite-là déjà, il y avait le peuple qu'on peut appeler le peuple passif, le peuple qui ne disait mot, ça devenait comme des ennemis, hein. Quand on te maltraite et que les gens ne font rien, bon, ça devient aussi comme des complices. C'était ce nombre-là qui en quelque sorte trahissait David. Ça faisait du mal. Et puis il y a tous les collaborateurs d'avant qui se sont joints au putsch, au coup d'État, au complot. Ça faisait des ennemis aussi. Ton propre fils. Et certainement une partie de la famille, puisque bon, le fils n'est pas seul dans la famille. Donc tout ça, ça faisait des ennemis nombreux. Et sur le chemin, il rencontre encore d'autres ennemis, notamment Shimei, qui lui jette la poussière, qui l'injurie, qui lui jette des cailloux. Donc les ennemis devenaient nombreux. David crie à Dieu, mais il ressort avec l'énergie de la victoire. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. On passe au psaume 4. Oui, question?
Question Internet. Dans la plupart des psaumes, l'auteur demandait à Dieu de le venger de ses ennemis, voire de les tuer. Pourtant, David notamment avait le Saint-Esprit. Nous nous bénissons et devons aimer nos ennemis.
Oui,
oui, c'est ça la question. Donc, l'internaute dit, dans la plupart des psaumes, l'auteur demandait à Dieu de le venger de ses ennemis, voire les tuer, alors qu'ils avaient le Saint-Esprit. Oui. Mais nous, la Bible nous dit de bénir et d'aimer nos ennemis.
Oui, avoir le Saint-Esprit, c'est très bien, mais avoir la parole, c'est complet. Donc, à l'époque, que ce soit les Moïse, les David, ils avaient reçu le don du Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas la parole comme nous avons. Donc, dans Jean 1, 17, l'apôtre dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce Et la vérité, c'est-à-dire la vraie parole totale, elle est venue par Jésus. Donc, cette grâce constitue la vérité totale que ces gens-là n'avaient pas. Donc, on remarque ça même dans les milieux chrétiens d'aujourd'hui, des gens qui aiment Jésus, qui parlent de lui avec énergie, mais qui font des erreurs graves. Donc, ça, il ne suffit pas d'avoir l'énergie du Saint-Esprit. Il faut avoir aussi la parole exacte. Ça va ensemble. Donc, beaucoup aujourd'hui se maintiennent en Christ malgré les difficultés, malgré les souffrances. On sent bien qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la bonne parole et ils font des erreurs. Ils se créent parfois des fausses doctrines. Comme il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut les deux. Il faut l'énergie du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Il faut l'éclairage du Saint-Esprit, mais il faut aussi avoir la parole. Et les Moïse, les David n'avaient pas encore clairement la parole de grâce comme nous, nous l'avons eu avec Jésus-Christ. Donc, psaume 4.
Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend, quand je crie à lui, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leur froment et leur moût, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure.
Amen, amen. Voilà, nous avions parlé du secours de Dieu. Hein, dans le psaume 3, là, nous voyons un appel à la protection divine. Dans le psaume 4, donc là, un appel à la sécurité de Dieu. Donc, David en appelle à, d'une certaine manière encore au secours de Dieu dans la détresse. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, aie pitié de moi, écoute ma prière. Et puis, ensuite, c'est comme s'il parle prophétiquement, fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée, jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge. C'est comme si, maintenant, là, Dieu l'utilise pour parler aux humains. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire des complots, à faire des choses pour vous produire votre propre gloire? Pourquoi vous cherchez votre propre gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Voilà. Donc là, il parle d'une manière prophétique aux gens pour dire, c'est vrai que ça vient de lui, mais il s'agit aussi de lui. Voilà, il s'agit de lui en tant que oint de l'Éternel. Nous avons vu aussi parfois le Seigneur Jésus parler ainsi par rapport à lui-même, parce que lui-même peut donner cette explication-là aussi. Parce qu'on peut se retrouver dans cette difficulté-là que nous sommes la personne que Dieu utilise pour parler, mais pour nous défendre encore nous-mêmes, ça arrive. Ce n'est pas ça qui doit se faire régulièrement, parce que c'est mieux que quelqu'un d'autre prenne notre défense. Mais ça peut arriver que Dieu nous utilise nous-mêmes, puisque ben, c'est nous qu'il a trouvé pour parler de nous-mêmes aussi. Voilà, c'est ce qui se passe avec David là, et c'est ce qui se passait parfois avec le Seigneur Jésus et aussi avec Paul. Donc là, il parle maintenant comme une prophétie aux autres. Sachez, verset 4, que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Donc, il parle de lui, mais il parle prophétiquement aussi du Messie qui va venir. Donc, c'est l'homme pieux. Là, présentement, c'est lui, mais qu'il est correct avec Dieu. C'est le choix de Dieu. Il est le choix de Dieu. Pourquoi les gens cherchent à lui faire des complications alors qu'il est le choix de Dieu? C'est Dieu qui l'a choisi. Et Tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs, sur votre couche, puis taisez-vous. Donc, il parle de lui, mais prophétiquement, il parle aussi du Messie qui va subir la même chose que lui. Voilà. Qui va subir la contestation, les complots, les gens qui veulent prendre sa place. D'ailleurs, on le voit dans le psaume 2, hein, c'est dit pourquoi tout ce tumulte hein, dans les nations, pourquoi on veut prendre la place du Fils de Dieu, quoi. Donc, c'est ça qui continue encore. Tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Donc, il appelle les gens à revenir à Dieu au lieu d'ourdir toutes sortes de machinations pour prendre le pouvoir, pour faire du mal à David. Revenez plutôt à Dieu. Voilà. Et offrez des sacrifices de justice. Et il s'en prend aussi aux gens qui contestent face à Dieu. Souvent, ça va ensemble. Quand les gens n'acceptent pas leur place, en quelque sorte, ils sont dans une contestation aussi sourde vis-à-vis de Dieu. Au fond d'eux, ils se disent, Dieu a fait le mauvais choix. Voilà. Nous, on est le bon choix. Donc, David dit, attention, vous contestez avec Dieu en disant, qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans ton cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs moûts. Et là maintenant, David célèbre Dieu. Donc ça finit souvent toujours comme ça, les psaumes, par la reconnaissance de la grandeur et de la fidélité de Dieu. David dit, même si eux, ils ont beaucoup de richesses, nous, on a une plus grande joie. Voilà. Voilà l'être spirituel. L'être spirituel tire sa joie de Dieu. Et non pas de bien matériel. Il tire sa joie de la présence du Saint-Esprit, de la paix de Dieu. Voilà, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Voilà. Donc quand on voit que les gens comme Richard Branson, il perd son argent à chercher à voler dans l'espace, et il est dans la joie. Mais nous, on a la même joie sans aller dans l'espace. Quoi. Voilà. Donc on a même plus que cette joie-là, une joie remplie d'assurance, de paix et d'avenir. Voilà. Et vous savez, son voyage n'a duré pas plus d'une heure trente. Voilà. Donc nous, on aura une vie éternelle. Éternellement, on pourra contempler les planètes, quoi, sans effort, sans avoir besoin d'un avion. Voilà ce que nous avons comme espérance et joie. Et il clôture en disant, hein, ce psaume, ce verset 9 est souvent utilisé par beaucoup de chrétiens dans leurs prières. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc beaucoup de chrétiens connaissent ce verset 9-là. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et c'est pourquoi on intitule hein, dans d'autres, pas peut-être sur ma Bible là, mais dans d'autres Bibles, c'est écrit psaume du soir. Le psaume 4, c'est écrit psaume du soir. Donc, ça veut dire que là, puisque c'est clôturé avec ce fameux verset 9, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Oui, question.
Question Internet. Peux-tu expliquer ce que veut dire sacrifice de justice ? Est-ce pratiquer la justice ?
Oui, c'est pratiquer la justice et c'est aussi faire des sacrifices avec un bon cœur. C'est-à-dire que tu viens avec l'animal, tu viens faire des sacrifices, mais avec un cœur pur. C'est aussi des sacrifices de justice. Voilà le psaume du soir qu'on vient de lire. Ça ne veut pas dire que chaque soir tu prends le psaume 4, mais bon. Mais déjà, ça, c'est pas mal. Mais on doit. Ça permet de dormir sans. Inquiétude, penser au lendemain, qu'est-ce que je ferai, comment. Vous savez, nous, on a une vie quelque part. Elle est routinière, mais vous savez, moi j'aime les histoires des missionnaires. Il y a des missionnaires qui dorment dans des endroits où il y a des léopards. Il ne sait pas cette nuit-là si le léopard ne va pas les visiter. Donc eux, quand vraiment ils lisent psaume 4, 9, c'est du sérieux. Mais toi, tu dis, je me couche, je me dors en paix, donc la porte est blindée, tout est... Voilà, bon. C'est bien, mais la force n'est pas la même. C'est pourquoi moi, j'exhorte les gens à la mission. Nous devons travailler pour le Seigneur, parce que quand on travaille pour le Seigneur, c'est là qu'on va vivre certains passages dans leur substance, vraiment. Je ne suis pas contre qu'on les applique dès maintenant, hein, puisqu'il peut y avoir d'autres attaques, même si la porte est blindée, il y a des démons qui peuvent aussi nous attaquer. Mais, voilà, quand on sert le Seigneur, on travaille, on se retrouve vraiment à voir l'application substantielle, claire et nette de ce qu'on lit, quoi. Effectivement, ces missionnaires-là, oui, eux, ils ont besoin d'être en paix. Vous savez, il y a des endroits où il n'y a pas de plafond jusqu'au bout parce qu'il faut le passer l'air, il n'y a pas de conditionnement d'air. Et les serpents passent par l'espace entre le toit et les murs. Et il y a une missionnaire, par exemple, elle s'est réveillée vers 1h du matin avec un serpent sur sa moustiquaire. Il faut crier sans bouger, que les gens viennent, tout ça. Mais c'est ça, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, parce que la nuit prochaine, ça va être quoi? Si tu as vécu cette nuit, la nuit prochaine, tu vas commencer à t'inquiéter. Mais quand tu lis psaume 4, 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Psaume 5.
Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les à cause de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouissent. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier.
Amen. Voilà. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Donc là, David en appelle à la délivrance du Seigneur. Prête l'oreille à mes paroles. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Vraiment, les psaumes, c'est un appel à prier, quoi. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des situations, mais qui murmurent seulement dans leur cœur. Peut-être ils n'ouvrent pas la voie pour maudire Dieu, comme avait conseillé la femme de Job. Mais on sent qu'ils sont tristes, on sent qu'ils sont abattus. Et c'est après un certain forcing qu'ils finissent par nous dire toute leur... tout leur mécontentement, toute leur amertume, parce que Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas cela. Et ils sont là comme ça, abattus, alors qu'il faut prier. Et voilà. Quand ça ne va pas, il faut parler du sujet avec Dieu. Vous savez, prier, ça ne veut pas dire forcément s'enfermer toujours quelque part et commencer. C'est bien ça. Mais prier, c'est aussi apprendre à ne pas se taire. Quand les situations arrivent, en parler directement à Dieu pour éviter de créer une accumulation qui peut produire de l'amertume et détruire nos cœurs. Il ne faut pas se taire. Dire les choses directement, voilà. Après, on aura des moments particuliers, mais quand on n'est pas bien, il faut parler. Je prie, dit David, c'est à toi que j'adresse ma prière. Verset 4, un très bon conseil. Le matin, tu entends ma voix. Donc, on voit bien que les choses se construisent dans la vie d'un enfant de Dieu dès le matin. Dès le matin, il faut construire sa journée. Le matin, je te parle, il faut faire un programme avec Dieu le matin. C'est important, bien-aimé. Nous ne vivons pas naturellement, c'est la grâce de Dieu. Alors il faut travailler toutes ces choses avec lui. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Donc deux fois on dit le matin là, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Et quand il dit tu entends ma voix, quelque part, c'est une certitude qu'il parle vraiment à quelqu'un. Ce n'est pas des prières machinales. Beaucoup sont tombés dans des prières machinales. Non. Là, il sait qu'il parle avec quelqu'un. C'est du sérieux. Tu entends ma voix. Vous savez combien de fois on a prié et on a reprié encore. Pourquoi? Parce qu'on a eu comme l'impression qu'il n'a pas, il ne nous a pas entendus. Ou au fond de nous, on a senti qu'on avait parlé légèrement tout en rêvassant quelque chose au repas du midi. Tu es en train de dire à Dieu quelque chose et puis tu penses au repas du midi. Tu penses aux chaussures que tu as vues sur Zalando. Donc, et toi-même, tu te rends compte que, ah non, c'était léger. Je repris sérieusement. Oui, s'il faut se remettre en question, remettons-nous en question. Nos phrases doivent toucher quelqu'un, doivent parler à Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu dois, quand tu finis la prière, tu dois être dans une assurance conscience que je viens de parler à Dieu, il m'a entendu. Voilà. Que ça ne soit pas vague. Et David dit, tu entends. Donc, il sait qu'il lui a parlé et qu'il a entendu. Il faut vraiment que ça soit une conversation avec une personne réelle. C'est ça la prière. C'est important. Maintenant, il va parler de ce qui est Dieu. Voilà, c'est toujours le milieu du psaume où on commence à exposer qui est Dieu parce qu'on va s'en servir pour notre revendication prochaine. Donc, ou notre revendication précédente, on dit qui est Dieu. Ah, mais non, mais Dieu, lui, n'aime pas le mal, car tu n'es point Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Donc, on donne les caractéristiques de Dieu. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans la justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voie sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Alors donc David expose la nature divine. Dieu est contre le mal, il est contre les méchants, il est contre tous ceux qui, sans tenir compte de lui, commettent l'iniquité. Et il compte les faire périr. Mais il est favorable à ceux qui vont s'humilier. Donc je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Ils ne sont pas parfaits, mais ils vont s'humilier devant lui. Sa miséricorde est sur eux. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Voilà, donc ceux qui vont auprès de Dieu pour se prosterner, pour s'humilier, la miséricorde de Dieu est agissante parce que sans la miséricorde de Dieu, personne ne peut être sauvé. Même si tu pries tous les jours, c'est la miséricorde de Dieu qui te sauve, ce ne sont pas tes prières. C'est la miséricorde de Dieu qui permet que tes prières soient entendues. Voilà, donc, dans ta miséricorde, moi je vais dans ta maison prier, me prosterner, t'implorer. Verset 9, « Conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. » Donc, aplanis ta voie sous mes pas, parce que mes ennemis mettent beaucoup d'obstacles, mais toi, aplanis tes voies et conduis-moi dans la justice, que je sois vraiment à toi. Voilà. Donc, il parle de Dieu et de son comportement avec les justes qui viennent chercher sa sécurité, la sécurité dans sa maison, et il finit par faire maintenant sa prière dans ce « aplanis mes voies, puisque moi, c'est toi que je veux, je viens me prosterner devant toi. » Donc, il présente qui est Dieu, et maintenant, il fait la prière en fonction de qui est Dieu. Donc, il fait miséricorde aux gens qui vont humblement dans sa maison. Donc, « aplanis ta voie sous mes pas, car il n'y a point de sincérité. » Donc, maintenant, il rappelle à Dieu ce que sont les ennemis, pour finir par demander à Dieu, verset 11, « Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. » Voilà donc. Il bénit le juste, il est vrai, il est juste. C'est pourquoi il appelle Dieu à frapper les ennemis. Donc nous avons déjà répondu à cette problématique. Donc pour dire que c'est que la connaissance de la grâce que nous avons, ce n'est pas la même connaissance que les David avaient. Eux, ils étaient dans une logique du Dieu juste qui punit les méchants. Et voilà, et à l'immédiat. Alors que nous avons la connaissance du Dieu juste qui veut sauver les méchants et qui jugera, qui punira tous les méchants à la fin d'une manière péremptoire. Donc, ça sera à la fin. Mais pour le moment, il veut sauver quand même les méchants aussi. Voilà, c'est ça la révélation que nous avons en Christ. Mais David fait la prière en fonction du niveau de révélation qu'il a à cette époque-là. Oui, question?
Question Internet. Est-ce qu'il arrive que Dieu n'écoute pas les prières, entre parenthèses, lorsqu'il n'y a pas de repentance ou bien une persistance du même péché?
Bon, dans Jean 9, 31, il est écrit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Hein, mais c'est ce qui... je pense que oui, certaines prières ne sont pas entendues parce que les gens négligent Dieu lui-même. Quoi. Voilà. Dieu veut qu'on prie selon sa volonté. Dans 1 Jean 5, 14, 15, si vous demandez quelque chose selon ma volonté, vous avez la chose. Je vous écoute et si je vous écoute, vous avez la chose quelle qu'elle soit. Donc Dieu ne veut pas de prières comme si on allait chez un féticheur. Il veut que tout se compose avec sa nature et notre transformation en son image, que nos prières fassent partie de cette construction-là. Voilà ce que je peux dire. Mais il faut comprendre une chose aussi, qu'il y a des prières que Dieu ne va pas exaucer, mais que les mauvais esprits, eux, peuvent exaucer. Donc quand on maudit quelqu'un, ça ne veut pas dire que Dieu va agir forcément, mais les mauvais esprits peuvent se saisir de ces mauvaises paroles qu'on a prononcées contre quelqu'un pour agir. Voilà, c'est pourquoi il est écrit que celui qui est son frère est un meurtrier. Nous continuons, psaume 6.
Psaume 6. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte.
Voilà un psaume très très important, hein, un psaume de repentance qu'on retrouve aussi, hein, des psaumes comme ça, le psaume 32, le psaume 51, donc de psaumes de repentance. Et bien aimé, comme nous avions dit précédemment, les psaumes, c'est vraiment notre vie, quoi, que nous voyons aussi. Vous savez, il y a des moments où là, David en appelle à la miséricorde de Dieu, mais toujours, comme on a dit, dans des moments de difficulté, dans des temps de souffrance. Il y a des moments où on hésite aussi, hein, on se dit, mais moi aussi je ne suis pas correct, moi aussi je ne suis pas parfait. Et on a vu dans les trois psaumes qu'on a lus, voilà, il parle plus des autres, des adversaires. Là, il parle de lui-même. Il se dit, mais peut-être que mes malheurs viennent de moi. Voilà, peut-être que ça vient de moi. Alors, je préfère me mettre en ordre avec Dieu. Bien-aimé, voilà. Les psaumes, c'est vraiment, c'est l'être humain qui parle, quoi. On se retrouve tous dedans. À des moments où, il y a des moments où on se dit, ah, est-ce que ce n'est pas moi aussi peut-être qui a péché? Et on s'examine et on demande à Dieu de nous examiner. Peut-être mes malheurs viennent de mes péchés, mais on se souvient de quoi? Que Dieu est miséricordieux. Voilà, on se dit, ah, au lieu de polémiquer, moi je vais régler d'abord mon problème avec Dieu. Donc, on ne peut pas passer son temps à seulement accuser les autres de nous créer des malheurs. Il y a un moment où on se dit, ah, peut-être que ça vient de moi. C'est ça l'humilité. Et pourquoi pas, puisque nous ne sommes pas parfaits. Si Dieu doit fouiller quelque chose, il trouvera. C'est ce que Job disait. Et c'est ce que Paul lui-même dit. Il dit, je ne me reproche rien, mais ce n'est pas moi qui me juge. C'est Dieu qui juge. Peut-être que moi, je ne vois rien de mal que j'ai commis, mais si Dieu devait me juger, lui, peut-être il trouvera. Donc, d'où attitude de miséricorde, même d'humilité, même quand on voit bien qu'on est persécuté injustement. Voilà. C'est évident que les autres se comportent d'une manière injuste, mais on se dit, attention, moi aussi, je peux être injuste. Réglons cette affaire-là avec le Père de miséricorde. C'est ce que David est en train de faire en ce moment en disant « Ne me punis pas dans ta colère. Peut-être que c'est moi le problème. Et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, car mes os sont tremblants. » Donc là, c'est vraiment là, l'humilité brute. Voilà, je suis sans force, je suis perdu. Ça nous arrive à nous tous, au moins il y a des moments où tu es perdu, tu ne sais pas trop. Est-ce que ce que tu vis, c'est juste à cause des mauvais esprits, juste à cause des démons, juste à cause des mauvais humains, ou peut-être c'est aussi ta faute? Donc on crie, on dit, ah, mais dans tous les cas, Dieu connaît tout. Si c'est moi, eh bien, Seigneur, ne me punis pas. Aie pitié de moi, guéris-moi. Mon âme est toute troublée. Voilà, il le dit. Mon âme est troublée. Il y a des moments où on est troublé. Même le Seigneur était troublé à Gethsémané. Il était troublé. S'il le faut, Seigneur, enlève cette coupe, mais que ta volonté soit faite. On est troublé, on est dépassé par la charge de difficultés. Aucun homme ne peut porter la charge de difficultés qui peut s'abattre sur lui quand Dieu laisse faire. Jésus l'avait dit à Pierre, hein, il a dit, Satan a choisi de te cribler, mais je vais prier pour toi, afin que tu ne défailles pas dans ta foi. Voilà. Il fallait le soutien de Dieu. Donc le trouble, ça arrive à tout le monde. Parce que certains, dès qu'ils sont troublés, ils pensent forcément qu'ils sont les pieds, le plus zéro des chrétiens. Non. Ça arrive à nous tous. On est troublés, on ne sait pas trop. On ne sait plus trop, est-ce que c'est peut-être de notre faute. Peut-être qu'on ne prie pas suffisamment. Peut-être qu'on ne devait pas être ici, il fallait obéir à Dieu quand on avait comme senti qu'il nous envoyait dans tel endroit. Donc, on est troublé parce qu'il y a une charge de choses difficiles qui nous tombent dessus. Voilà, on commence nous-mêmes aussi à chercher la faute chez nous. C'est normal. Et c'est bien ainsi d'avouer qu'on est troublé. De le dire à Dieu, et David le dit clairement, mon âme est troublée, et toi Éternel, jusqu'à quand? Reviens Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? On connaît notre ami Ézéchias avait rappelé ça à Dieu quand on lui dit, bon, c'est bon, prépare ta famille, tu vas mourir. Ah! Ézéchias a sorti le psaume qu'on vient de lire. Là. Qui va te louer, Seigneur, dans le séjour des morts? Oh, mais, vous savez, quand on cite tout ça à Dieu, Dieu dit, il m'a coincé dans ma propre parole. Bon, d'accord, je te donne 15 ans encore, mais bien-aimé, vaut mieux la volonté de Dieu. On a vu la bêtise qu'Ézéchias a commise. Une petite marche arrière au verset 10 du psaume 5. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Ça nous rappelle quel verset du Nouveau Testament, Romains 3, 10. On va lire ça. En fait, c'est juste une parenthèse pour voir que tout est relié dans la Bible, quoi. Romains 3, 10, il n'y a point de juste, même pas un seul. C'est là qu'on va parler de leur gosier. Voilà. Romains 3, 10.
Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic.
Voilà, donc ça nous rappelle. Donc, et ici, c'est aussi au verset 10. Donc, psaume 5, 10. Donc, là-bas, c'est plus loin, mais c'est leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Donc, on voit que les gens qui écrivaient, ils s'informaient de ce qui avait été écrit avant, ils prenaient ça au sérieux. Il n'y a qu'à notre époque où on a des jeunes courageux qui veulent inventer une autre Bible, inventer des trucs nouveaux. Mais non, mais les gens de l'époque, même Jésus lui-même disait, il est écrit. Donc, il s'inspirait des écrits avant lui. Voilà, donc tout est relié. Et là, nous venons de lire le psaume 6, pareil, un passage qu'Ézéchias va citer à son tour, « Qui te louera dans le séjour des morts ?» Donc tout ça, David expose ça à Dieu, dit, mais après tout, c'est les vivants qui doivent proclamer ta gloire. Sauve-moi pour ta gloire, en quelque sorte, c'est ce qu'il veut lui dire, quoi. Sauve-moi pour ta gloire. Et nous l'avions dit dans le séminaire, demander, chercher, et frappé, on avait dit que parfois nous ne recevons pas parce que nous n'associons pas le Seigneur au bénéfice de notre prière. On n'associe pas Dieu. On doit associer Dieu au bénéfice de notre prière. Comme quand la maman de Samuel demandait l'enfant, il ne lui avait pas été accordé. Mais quand il a dit, cet enfant, je te le donnerai pour te servir, elle a été exaucée immédiatement. Elle a associé Dieu au bénéfice de la prière. Et David, c'est ce qui tente de dire, ben, si je vis, c'est toi que je vais louer. Voilà. Et tu seras glorifié. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Bien-aimé, il faut qu'on soit honnête. Parfois, on veut tellement triompher qu'on lutte par soi-même et on s'épuise. Mais parce qu'on a honte de dire à Dieu que je m'épuise. On a honte de dire à Dieu que ça me fait mal. Parce que je dis, en tant que chrétien, les critiques ne doivent pas me faire mal. Hein. Mais si ça te fait mal, dis à Dieu. Bon, en tant que chrétien, je ne dois pas pleurer malgré les soucis. Oh non, si tu pleures, tu pleures. Soyons honnêtes avec Dieu. Même si nous estimons qu'on aurait dû avoir un comportement beaucoup plus positif, mais si on ne l'a pas eu, avouons que, mais oui, mais Seigneur, moi, je suis dépassé par ce qui m'arrive. Voilà. Soyons sincères, transparents avec Dieu. Ne cherchons pas à lui montrer qu'on est des bons chrétiens, qui avons tout compris et on supporte tout. C'est bon, Seigneur, malgré tout, je suis dans la joie, je te loue. Non, non, non. Si le courage de ne pas louer, de louer ne vient pas, tu dis, Seigneur, voilà même, je n'arrive même pas à louer. Tellement je souffre. Viens à mon secours. Soyons sincères avec lui. Et après, appelons. Demandons son aide. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Donc, on voit quelqu'un qui ne perd pas la foi en Dieu, malgré sa détresse, malgré ses larmes, malgré un état comme de déconfiture dans la foi, mais il y a une base de foi radicale qui demeure. Dieu entend et Dieu va faire. Voilà. La foi totale n'y est pas, mais il y a un résidu de foi qui va reconstruire toute la partie qui est partie. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. Voilà, ça finit toujours comme ça dans la louange et dans l'élévation de l'Éternel, les psaumes en général. Voilà, que Dieu soit béni. Psaume 7 pour clôturer.
Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Cush, benjamite. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, et si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, pardon, son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut.
Amen, amen. C'est ça la vraie prière. Ça finit par la louange. On finit dans la prière à être vraiment en contact avec Dieu. Et ça crée en nous la louange. Ça crée la confiance. Voilà, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. La prière doit avoir pour finalité Dieu lui-même, finalement. On sort avec lui. On sort rempli de lui-même. Voilà, c'est ce qui se passe quand on lit ces psaumes-là. Et le psaume 7, c'est un juste qui réclame, en quelque sorte, la justice de Dieu. Quelqu'un qui est convaincu, mais il est convaincu aussi puisqu'il y a le psaume 6, où il a fait le travail de se repentir. Il a fait le travail de dire, Seigneur, moi aussi je suis imparfait, pardonne mes péchés. Donc il a fait ce travail-là. Maintenant, il sait qu'il est injuste. Le juste, ce n'est pas celui qui est parfait. Le juste, c'est celui qui a de bonnes intentions. Le juste, c'est celui qui s'humilie devant Dieu, qui peut reconnaître ses torts et demander le changement total. C'est ça le juste. Donc, ayant fait ce travail dans le psaume 6, il vient dire à Dieu, mais maintenant que je suis juste, agis en ma faveur conformément à ta logique qui est de soutenir le juste. Ça revient encore, voilà, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, verset 7, contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel. Donc, il crie à la justice de Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Donc, la personne qui est en train de prier au verset 7 a fait un travail qui l'a amené à dire qu'il est vraiment lui-même juste et que, voilà, le Seigneur doit en tenir compte dans son fonctionnement. Ce n'est pas dans son fonctionnement, dans ce qui arrive à la personne, ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de la vantardise, mais c'est vraiment un travail qui est fait où tu es conscient de ce que tu veux. Tu sais que tu ne cherches pas l'argent, tu ne cherches pas le mal, tu sais que tu veux le bien des gens, tu sais qu'est-ce que tu veux. Et tu reconnais que tu es juste. Voilà, et que voilà, le Seigneur ne peut pas te laisser tomber. On crie à lui, Seigneur, interviens. Et ce sont des prières même parfois qui mêlent le lien avec des peuples, parce qu'il y a des peuples qui persécutent d'autres peuples. Et on rappelle ça, Dieu intervient au milieu des peuples. Lève-toi au-dessus des peuples, parce que quand on dit peuple, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Mais on dit à Dieu de se lever au-dessus de tout ça et de nous délivrer. Et puis, à la fin, juste avant la louange, il explique le sort du méchant. Le méchant finit toujours mal. Il ouvre une fosse, verset 16, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Je sais que beaucoup trouvent que non, mais ça prend du temps avant que ça se réalise, mais ça finit par se réaliser. Et avec le recul, on réalise que ça n'a pas pris tant de temps que ça. C'est vrai que quand on te dit que Mobutu, le dictateur, ben, il a fait environ 32 ans de règne, ça paraît beaucoup comme ça, le nombre, quand il est cité. Mais attention, souvent quand on dit 32 ans de règne, les 5 premières années ne sont pas à compter puisque la personne ne règne pas encore, la personne se cherche, la personne essaie de bricoler. Voilà, et le règne va venir 6 ans, 7 ans après, et quand ce règne vient, finalement, on a dit 32 ans, mais la chute commence déjà à la 20e année. La personne n'est plus sûre d'elle. La personne perd certains soutiens. Mais nous, on ne voit pas ça. Nous, on voit seulement la personne qui est là. Mais en réalité, la personne n'est plus stable, n'est plus bien. Nous, on croit que le règne continue. Le règne, finalement, il est plus court que cela. Souvenez-vous quand Saül a été rejeté il a eu encore beaucoup d'années à travailler en tant que roi. Mais pourtant, il avait été déjà rejeté, c'était déjà fini. Pour nous, pour les gens qui l'observaient, il le voyait roi. Mais lui-même, nous, et nous, les lecteurs de la Bible, nous voyons bien qu'il était plus à l'aise. Il était comme gêné par la présence de David. Il sentait en lui que c'était David, le vrai roi. Et quelqu'un comme ça, il ne règne plus. Il n'est plus bien. Peut-être physiquement, il est en poste. Mais il est déjà tombé et lui-même en est conscient puisque Samuel lui a dit clairement que Dieu a déchiré ton royaume, c'est fini. T'as déchiré plutôt ton règne, c'est fini. Donc il a trouvé quelqu'un d'autre de meilleur que toi. Donc, il sait tout ça, mais le public qui regarde se dit « Ah mais il règne, depuis que Dieu avait dit, mais non, la personne ne règne plus. Ça ne dure pas aussi longtemps qu'on le pense. » C'est vraiment, ce verset-là s'accomplisse réellement. Ce qu'on est en train de lire, son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Combien de présidents dictateurs africains ne sont-ils pas morts parce qu'ils ont tellement fait que du mal à leur pays, ils n'ont rien fait de substantiel jusqu'aux hôpitaux. Du coup, quand ils tombent sérieusement malades, le temps qu'on les mette dans l'avion pour les amener en Europe, ben, la maladie s'aggrave et ils en meurent. Certains sont morts comme ça. Le président gabonais, Omar Bongo. Allez, évacuation, mais c'est... si vous aviez de très, très bons hôpitaux, de très bons médecins sur place, ça se ferait rapidement, vos soins. Évacuation médicale, mais ben, ça peut, tout ce temps-là que ça peut prendre, ça peut aggraver certaines maladies, surtout quand on a de l'âge. Donc, c'est ce qui est écrit là, son iniquité retombe sur sa tête. Donc, ce que tu fais de mal là, un jour, ça te jouera un mauvais tour à toi-même. Tu refuses de faire de bons hôpitaux, un jour, toi-même, ça te manquera. C'est ça la réalité. Et beaucoup de méchants font le mal, la Bible dit, ça retombera sur eux-mêmes. Mais parfois, on a l'impression que ça prend du temps. Mais je nous dis, c'est faux, la Bible s'accomplit. Ça ne prend pas aussi de temps qu'on peut le penser. Voilà. Eux le savent. C'est nous, les spectateurs, les observateurs, qui pensons que ça prend trop de temps. Mais eux-mêmes savent combien c'est fragile et que ça se casse très vite. Et ils ne font que résister pour demeurer par la chair, mais ils sont plus heureux, ils sont plus à l'aise, ils règnent plus. Voilà. Nous louerons l'Éternel, verset 18, à cause de sa justice. Nous chanterons le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Question.
Oui, pasteur. J'ai une question, deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut considérer David, qui a écrit ce psaume-là, comme le bras de l'Éternel pour agir ?
Dans quel sens
C'est-à-dire, quand il parle des méchants. Ma question, en fait, c'est il y a dans l'islam une sourate qui dit qu'on peut convertir les gens par la force de l'épée s'ils ne veulent pas. Et là, ici, il est dit « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. »
Mais ça ne veut pas dire que c'est pour le convertir, c'est pour exercer tout simplement la justice.
Donc la différence entre les deux, c'est quoi exactement?
La Bible est contre la conversion forcée, au contraire. Donc il faut que la personne soit consciente que Dieu est vraiment juste et bon et qu'il se convertisse à lui. Alors que dans l'islam, on ne te demande pas d'analyser Dieu, on te demande de le confesser. Voilà. Tu confesses. On refuse même que tu réfléchisses à lui. Alors que dans le christianisme, dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, on en appelle à méditer sur Dieu et de le choisir.
D'accord. Donc là, sans te couper, en fait, quand il dit « si le méchant ne se convertit, s'il ne se convertit pas, il aiguise son glaive », ça veut dire
le
que...
Le jugement tombe.
Voilà, le jugement tombe. Il a quand même laissé un temps pour se convertir. Mais si ce temps-là n'a pas produit son fruit, à ce moment-là, c'est Dieu qui agit par son glaive.
Par le jugement, oui, c'est ça.
Par le jugement. Et il peut agir à travers quelqu'un.
Ah oui, il peut utiliser beaucoup de gens, mais souvent dans son jugement, il utilise aussi des méchants.
Donc il peut mourir par un autre méchant. Il n'est pas obligé de mourir par quelqu'un comme David, par exemple.
Non, non, voilà, il peut mourir, oui, il peut mourir par un autre méchant.
Ouais, je pose la question pour pas, parce que parfois, il peut y avoir des amalgames, et certains peuvent utiliser ça pour dire, non, mais moi, je suis le bras de l'Éternel, j'agis parce que Dieu m'a commandé d'agir.
Ah non, aujourd'hui, nous avons les versets clairs, bénissez, ne maudissez pas, priez pour ceux qui vous persécutent. Nous, on a la révélation totale claire, comme le frère Jean l'a dit dans Jean 1, 17. Voilà, nous, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Donc, nous allons prier pour... oui ? Et le micro n'est pas allumé.
Alors, question. Paul dit... Pour moi, vivre, c'est Christ et mourir est un gain. Comment comprendre David prie contre la mort? Ézéchias a-t-il vraiment fait mal de supplier le Seigneur pour vivre?
Mais je ne vois pas. David ne prie pas vraiment spécifiquement contre la mort. Il prie contre un état qui amène à la mort. Voilà, il est dans un mauvais état qui amène à la mort. Il dit, ce ne sont pas les faibles, ce n'est pas un tel état qui glorifie Dieu, quoi. Mais Ézéchiel, c'était spécifique. Donc, on lui dit en plus par Ézéchias, on lui dit en plus, c'est Dieu lui-même qui lui dit, c'est bon maintenant, tu vas aller avec moi au ciel. Donc là, c'est quand même Dieu qui lui dit, alors que David résiste à un état de destruction, de souffrance qui l'amène pas à pas à la mort, sans que ça soit dit que c'est Dieu qui veut le l'amener, qui veut le voir mourir. Non, ce n'est pas dit. Mais Ézéchias, lui, il a résisté à un ordre divin. Prépare ta famille, moi je te prends. C'est un ordre divin. À la rigueur, il pouvait... demander à Dieu des explications. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il a dit non. Il a fait passer Dieu comme quelqu'un d'injuste. Avec tout le bien que moi j'ai fait, c'est maintenant que tu veux me tuer. Voilà. Et ça, c'est pourquoi Dieu dit, ah bon, je passe pour le mauvais, ben je t'accorde encore 15 ans. Ben, on a vu toutes les bêtises qu'il a commises pendant ces 15 ans.
Une autre question. Lorsqu'on reçoit la paix dans nos cœurs, dans une prière, est-ce bien un signe que nous sommes dans sa volonté et ou que notre prière lui plaît? Si oui, devons-nous continuer de prier ou attendre que le Seigneur nous en donne la conviction, entre parenthèses, hormis le fait que nous voyons de nous-mêmes notre prière exaucée?
Le meilleur moyen de savoir que notre prière est bonne, c'est la Bible. Est-ce qu'elle est conforme aux Écritures, conforme aux attentes de Dieu dans les Écritures? Parce que ne rester que sur la logique de paix ou bien d'aisance qu'on peut ressentir après une prière, c'est une erreur parce que beaucoup ont reçu de telles paix, de telles aisances avec des fausses prières, avec des mauvaises directions, des mauvaises doctrines même. Hein. Il y a des gens qui disent, mais moi, quand j'ai demandé ça, Dieu m'a montré ça et j'étais bien. Mais quand on vous raconte ce qui était bien là, ça demeure une fausse doctrine. Donc, la sensation, c'est bien quand ça va avec la droiture conformément aux Écritures. Donc, c'est le meilleur moyen de savoir si notre prière est bonne. Maintenant, si, conformément aux Écritures, nous sommes dans la bonne voie, effectivement, Dieu nous donne une paix qui veut nous dire qu'il a exaucé et on en ressort avec la louange. Nous allons prier afin que Dieu nous aide à être sincères avec lui. Et avant même, hein, donc on va suivre la procédure du psaume 3, donc on va dire, on va demander à Dieu de nous aider à prier toujours, à ne pas se taire, à parler, à prier, à être des gens qui parlons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à parler toujours, à prier, à ne pas passer plus de temps à réfléchir qu'à prier. Que la prière l'emporte sur les raisonnements. Prier pas seulement comme des pensées qui passent par la tête, mais en parlant clairement à quelqu'un, à toi, Seigneur, que nous puissions parler, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Prions également que Dieu nous aide à être sincères, hein, à étaler nos problèmes tels que nous ressentons, pas tels que on doit ressentir, parce que parfois on présente les choses selon ce que, la perfection, alors que nous, on n'est pas dans cette perfection-là. Donc soyons sincères dans notre état, exposons les choses telles que nous, ça nous vient. Si on doit se corriger, on se corrige, mais on doit être sincère avec le Seigneur. Seigneur, nous voulons être sincères, dire les choses telles que ça nous frappe, telles que nous en ressentons la douleur, et que nous puissions nous corriger et sans problème non plus. Seigneur, parce que parfois nous sommes pris dans une forme de religiosité à vouloir paraître bon chrétien devant toi, faire comme si on n'avait pas mal, faire comme si tout allait bien alors que ça ne va pas, faire comme si nous avons bien encaissé. Seigneur, si c'est vrai qu'on a bien encaissé, d'accord, mais si c'est faux, que nous puissions dire qu'on n'a pas bien encaissé et qu'on a besoin de ton aide, qu'on puisse dire qu'on n'a pas bien encaissé et que ce n'est pas bon en tant que bon chrétien, en tant que vrai chrétien, Seigneur. Oui, mais que nous soyons sincères. Oh, Papa, aide-nous dans le nom de Jésus. Nous t'en prions. Alléluia. Prions également que Dieu nous aide toujours à nous rappeler de ce qu'il est pour nous, de sa fonction en nous, de notre lien avec lui, de l'alliance qu'on a traitée avec lui, que nous puissions lui présenter ça comme les avocats présentent des articles du code civil, du code pénal, pour réclamer une décision du juge. Que nous puissions nous rappeler tout cela, que nous ne regardions pas à nous, mais regardons surtout à l'œuvre de la croix où Christ a crié « Tout est accompli ». Ô Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à regarder à l'alliance que nous avons contractée avec toi et non pas à nos moyens, à nous. Parfois, nous n'osons même pas demander certaines choses. Parfois, nous sommes découragés, le mal, les souffrances nous ayant submergés et nous voyons les choses loin, Seigneur, au lointain. Seigneur, nous voulons nous rappeler que nous avons une alliance, nous avons un Dieu, nous avons un Papa, nous avons un Seigneur et Sauveur qui a été crucifié et qui a pris sur lui nos péchés et qui est ressuscité le troisième jour. Nous ouvrons une nouvelle porte de vie, Seigneur, une résurrection en nous. C'est qu'on se rappelle de tout ça, Seigneur, qu'on te présente, qu'on invoque le nom de l'Éternel à partir de tout cela, au nom de Jésus. Et prions pour que Dieu nous aide à être sensibles à la paix qu'il peut nous donner pendant la prière, à la force, à l'assurance, et que nos prières finissent par la louange. Ô Seigneur, nous voulons être attentifs à ta réponse, même une réponse qui paraît pas foudroyante, mais qui se manifeste par une certaine paix, une force que nous recevons pendant la prière. Au lieu, quand nous recevons cette force, au lieu de ressombrer dans la tristesse, dans les lamentations, qu'on en sorte par la louange et l'adoration. Merci Seigneur de te manifester dans ta gloire et dans ta puissance, que nous finissons par être tous des adorateurs et ceux qui chantent tes louanges. À toi la gloire, la louange pour cette étude biblique. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.